Un air d'actu avec Serge Carrel.
Il est l'un des spécialistes francophones du Sermon sur la montagne. Claude Bécher, pasteur et théologien ménonite, est notre invité aujourd'hui pour nous parler d'une des affirmations fortes de ce discours de Jésus que l'on trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5 à 7. Vous avez appris qu'il a été dit « Tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Et moi je vous dis, déclare Jésus, « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Madame, Monsieur, bienvenue. L'amour de l'ennemi a de quoi choquer. Et pourtant, cette demande de Jésus retentit à la fois dans les évangiles et dans les épîtres de l'apôtre Paul. Alors, aujourd'hui, partons à la découverte de cet enseignement que l'on peut lire au chapitre 5 et au verset 43 et 44 de l'évangile de Matthieu. C'est le pasteur Claude Bécher qui nous sert de guide. Nous l'avons rencontré chez lui en Alsace avec cette première question. Comment Jésus peut-il nous demander d'aimer celui qui nous veut du mal ou qui nous a fait du mal? N'y a-t-il pas quelque chose de choquant pour nous aujourd'hui?
Ils ont raison d'être choqués. On n'est pas conditionné pour comprendre et puis pratiquer cela de prime abord. En chacun de nous, il y a cette volonté de réplique, de renvoyer l'autre dans ses cordes et puis de se distancer de celui qui fait du mal. Donc effectivement, c'est bien aimer les ennemis qui est l'impératif le plus surprenant dans l'enseignement et la pratique du Christ.
D'où vient cet enseignement de Jésus d'aimer ses ennemis ?
À écouter les discours de Jésus dans les évangiles, il s'agit de refléter Dieu. Je m'explique. Quand Jésus développe l'idée d'aimer les ennemis, il dit « Votre Père céleste, c'est-à-dire Dieu, donne ses bénédictions, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous-même, saluez tout le monde, y compris ceux qui ne vous saluent pas. » C'est-à-dire qu'il nous apprend, et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain, ça s'apprend par des pratiques quotidiennes, une résolution ferme de vouloir le pratiquer, de pratiquer la bienveillance vis-à-vis d'autrui, indépendamment du fait qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas.
Ce qui est intéressant, si on a à resituer cette invitation de Jésus à aimer ses ennemis, c'est de voir que ça s'inscrit dans le Sermon sur la montagne, dans le chapitre 5, et dans ces fameuses six antithèses que l'on rencontre dans ce chapitre 5 et qui touchent le relationnel.
Effectivement, c'est la sixième antithèse. Et cette sixième antithèse dit, vous avez appris qu'il a été dit, et tu haïras ton ennemi. Mais si on regarde dans les Écritures, on ne le trouve pas, cet devoir impératif d'haïr ses ennemis. On trouve la dimension dans les prières, et j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais encore une fois, l'ancrage du Christ pour cette pratique et cet enseignement, c'est la bienveillance vis-à-vis d'autrui et l'imitation de Dieu. Et donc, il nous dit de porter le reflet de Dieu en nous. C'est ainsi que vous serez fils et filles de votre Père qui est dans les cieux, si vous pratiquez cette bienveillance qui va au-delà du mérite.
Alors ce qui est intéressant là, dans ces trois mots, aimez vos ennemis, c'est le fait tout d'abord de ce verbe. C'est un verbe particulier dans le Nouveau Testament, c'est un verbe qui renvoie au nom agapé, un amour particulier.
Oui, c'est un amour qui est adulte, qui est majeur. C'est un amour désintéressé de fin égoïste. C'est un amour pour autrui, pour ce qu'il est. Et toute personne humaine dans ce monde est image de Dieu. Si on se laisse imprégner par cette énorme bombe de l'enseignement du livre de la Genèse, et donc cette dignité donnée à chaque être humain fondamental va aider à développer cette bienveillance, y compris pour celui qui ne nous aime pas nécessairement.
Est-ce que vous diriez à certains égards que ce mot agapé, ce mot amour, a été quelque part forgé par les auteurs du Nouveau Testament ?
Oui, les auteurs du Nouveau Testament, je dirais même Jésus s'il parlait le grec, il est possible qu'en Galilée, on ait aussi eu accès facilement au grec, pas que à l'hébreu ou à l'araméen, est quelque chose de spécifique de la religion de Jésus.
Alors, on a ce mot agapao, aimer vos ennemis. S'il faut essayer un peu de comprendre ce mot ennemi dans le cadre du sermon sur la montagne, à quoi ce mot renvoie-t-il ?
Alors, vous savez que dans toute société, il y a des instruments de propagande. Et les instruments de propagande idéologique, nous baignons dedans. Ce sont les lunettes au travers de laquelle le groupe social auquel j'appartiens regarde. Et ces groupes humains vivent comme des sortes de petits égaux qui défendent leurs intérêts. Et par conséquent, il y a des diabolisations qui sont implicites. Et c'est contre ce type de diabolisation d'autrui que Jésus va s'en prendre d'un point de vue général. Mais du temps de Jésus, le mot utilisé est ektros en grec, ennemi, qui recouvre toute l'étendue du mot ennemi, pas que l'ennemi interpersonnel. J'ai fait la vérification dans le Nouveau Testament, ce n'est qu'en grec classique qu'on peut distinguer le grec polémios, qui veut dire l'ennemi public, l'ennemi national, de ektros, qui est l'ennemi inter-individuel uniquement. Mais dans le Nouveau Testament, c'est uniquement ektros qui couvre tout le champ des ennemis qui sont envisagés. Alors on ne peut pas s'empêcher de penser que ennemi, c'est les troupes d'occupation.
Donc là, en l'occurrence, ce sont les Romains.
Les Romains, les troupes de profiteurs qui font partie d'un système d'exploitation, comme il en existe au travers des siècles dans beaucoup d'intérêts.
Et puis, on peut aussi imaginer, peut-être par rapport à Jésus, des gens qui auraient voulu être encore plus radicaux que lui et qui auraient voulu recourir à la violence pour bouter les Romains hors du pays, les Zélotes.
Effectivement, cette partie de Israël du temps de Jésus qui était des gens qui soutenaient le parti nationaliste violent qui était les Sicaires ou les Zélotes étaient devenus des ennemis parce qu'ils s'en prenaient à l'enseignement de Jésus et de ses disciples après la résurrection qui préconisait justement l'abstention de la volonté de contrainte des corps et de tuer les collaborateurs voulant privilégier plutôt le fait de gagner leur intention et leur cœur.
Claude Bécher, lorsqu'on parle d'aimer ses ennemis, hein, et que, voilà, on situe cette demande de Jésus dans le sermon sur la montagne, dans le chapitre 5, on se dit, est-ce que Jésus finalement reprend cela de l'Ancien Testament de manière directe ?
Il le reprend et le développe. Il le reprend, je pense par exemple au livre des Lévitiques, Genèse, Exode, Lévitique dans le Pentateuque. Lévitique chapitre 19, verset 18, « N'aie aucune pensée de haine contre ton frère, mais n'hésite pas à le réprimander, ton compatriote, pour ne pas te charger d'un péché à son égard. Ne te venge pas et ne sois pas rancunier à l'égard des fils de ton peuple. C'est ainsi que tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est moi le Seigneur. » Là, on pourrait dire c'est pour les Juifs entre les Juifs. Mais qu'est-ce qu'on fait des étrangers qui se trouvent là présents ? Eh ben, on trouve également dans le livre des Lévitiques, au chapitre 19, versets 33 et 34, « Quand un émigré viendra s'installer chez toi dans votre pays, vous ne l'exploiterez pas. Cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme quelqu'un de chez vous, comme un indigène, comme l'un de vous. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous-même avez été des émigrés dans le pays d'Égypte. C'est moi, le Seigneur, votre Dieu. »
Et donc, ce qu'on pourrait dire concrètement, c'est que Jésus met un peu ces différents versets du Lévitique ensemble et quelque part ouvre à un amour généralisé à l'endroit de qui que ce soit.
Effectivement. L'Ancien Testament n'énonce pas la haine de l'ennemi comme une règle, même si nous le trouvons parfois dans certaines prières. Mais le principe général est, par exemple, bien expliqué dans le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 21. « Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ce sera comme si tu lui mettais des charbons ardents sur sa tête et l'Éternel te le rendra. » Autrement dit, il y a un profit à le faire.
Alors, comment est-ce qu'il faut comprendre ce début du verset 43 du chapitre 5, de cette antithèse où il est question de l'amour de l'ennemi, où on entend Jésus dire « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi ». Qui a dit ça ?
Alors, il faut que vous sachiez que les prédicateurs que nous sommes, et tous les interprètes et exégètes, nous avons une tendance à faire de la volonté de Dieu quelque chose d'arrangeant. arrangeant pour la dureté de nos cœurs également. Nous ne sommes pas juste neutres. C'est la raison pour laquelle laisser parler l'Évangile pour lui-même est tellement important.
Donc là, ce que vous dites, c'est que finalement, c'est pas la Torah, c'est pas la loi juive qui dirait cela, mais c'est plutôt les prédicateurs de l'époque, les pharisiens ?
Oui, ce sont les prédicateurs de l'époque qui enseignaient qu'il fallait aimer le compatriote, mais qu'il fallait haïr l'ennemi. Mais ceci, ne se trouvant pas dans l'Écriture, montre bien que c'est une tradition d'interprétation qui s'est installée et qui ouvre la voie à des révoltes violentes, à des meurtres de personnes qui viennent de partis opposés, et même de juifs vis-à-vis des juifs. Souvenez-vous, les collaborateurs étaient également des cibles visées par les sicaires ou les zélotes du temps de Jésus et surtout encore après. Et c'est récurrent dans l'histoire de l'humanité.
Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres.
Toi, je pourrais mourir. Nous nous abandonnons à toi.
Toi qui parles de ta mort, c'est ta vie qui parlera. Vous qui me croyez encore, non, ne perdez pas la foi. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont.
Claude Bécher, on a eu l'occasion un peu de décortiquer cette formule « Aimez vos ennemis ». Ce qui est intéressant dans ce discours, le sermon sur la montagne, c'est qu'associé à cet amour des ennemis, il y a cette invitation de Jésus à prier pour ceux qui vous persécutent. Alors, en quoi est-ce que la prière est importante dans cette dynamique d'amour à l'endroit de l'ennemi ?
La prière est d'abord utile. Ce n'est pas d'abord quelque chose que l'on doit faire pour paraître pieux. La prière a comme fonction de nous mettre nous-mêmes dans la confrontation et la communion avec Dieu. Si ce Dieu est amour, c'est nous qui devons changer. Et la prière a cette fonction de pouvoir énoncer ce qui nous habite. Et dans ce qui nous habite, il n'y a pas que des choses glorieuses. Moi qui vous parle, je connais suffisamment la possibilité de mes violences intérieures. J'ai besoin de la prière, non seulement pour exprimer mon envie de vengeance, mes colères entretenues, pas que ponctuelles, et je suis tellement heureux que, dans son réalisme, Jésus ait abordé ce genre de choses. La prière a comme fonction de remettre l'autorité de Dieu en première place par rapport à mes besoins, mais également de me permettre de réorienter mes propres pulsions intérieures, parce qu'il y a des meurtriers potentiels à chacun d'entre nous.
Est-ce que finalement certains psaumes rejoindraient un peu cette dynamique à laquelle nous invite Jésus, c'est-à-dire à prier pour nos ennemis ?
Oui, je pense au psaume 136. On voit des violences exprimées. L'inacceptable fait que nous sortons nous-mêmes de nos propres capacités de nous prendre en charge. Il y a de l'inacceptable. Et il est important de pouvoir dire simplement que ce qui est inacceptable dans le comportement d'autrui. Mais c'est pas parce qu'on dit « je les hais d'une haine parfaite » dans une prière que le but est de haïr quelqu'un dans la durée. Exprimer sa haine permet de mettre en évidence ses propres violences pour les exposer à la lumière de Dieu, pour les orienter vers le bien de cette personne qui est l'ennemi, mais également vers ce qui plaît au Seigneur dans le comportement qui serait le nôtre.
Claude Méchère, on a vu à la fois ce que signifiait le fait d'aimer ses ennemis, on a vu aussi l'importance de la prière dans un tel contexte. Mais finalement, s'il fallait trouver le fondement de cette action d'aimer ses ennemis, où est-ce qu'on trouve ce fondement ?
Jésus lui-même, lorsqu'il aborde cette question de l'amour de tous, y compris des ennemis, revient longuement sur ce fondement, non seulement en disant que le Père fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes, et fait rayonner son soleil sur les deux, mais également lorsqu'il dit « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Le mot « parfait » peut effrayer. Mais si on trouve la même parole expliquée par l'évangéliste Luc, on trouve ça dans chapitre 6, verset 36, « Soyez miséricordieux comme votre Père céleste est miséricordieux ». Et c'est là qu'on comprend que le mot « parfait » ne signifie pas « impeccabilité » parce que personne d'entre nous, compte tenu de ce que nous sommes, n'en est capable de l'impeccabilité. Mais ce à quoi nous sommes appelés, c'est d'être capable de miséricorde, c'est-à-dire d'être adulte en amour. « Soyez parfait » signifie « soyez adulte en amour ». Comme votre Père sait ne pas faire de différence entre les uns qui seraient plus méritants que les autres.
Claude Béchère, lorsqu'on entend Jésus dire « aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent », est-ce que vous auriez des exemples concrets où Jésus a véritablement mis ses paroles en pratique ?
Jésus confronté au prétoire, Jésus confronté aux pharisiens, c'était comme des ennemis, des gens qui ne l'aimaient pas, même des gens qui s'étaient mis d'accord pour le faire périr. Ils ne pouvaient pas le tuer eux-mêmes, ils voulaient le faire périr. Là, il s'agit d'ennemis qui seraient plutôt des ennemis interpersonnels. La croix montre que Jésus a confronté ce mal en faisant le bien et jusqu'au bout. Maintenant, quant aux autres ennemis, il faut penser par exemple à la foi du centurion autour de la crucifixion, mais on voit aussi Jésus aller jusqu'à Gadara, c'est-à-dire au-delà des régions où le monothéisme était commun. On voit Jésus confronté à des êtres humains qui ne sont pas nécessairement des gens qui sont pleinement d'accord avec lui. Maintenant, ça n'empêche pas Jésus d'avoir des paroles très dures vis-à-vis des gens qui s'en prenaient à lui et qui enseignaient des choses fausses de la part de Dieu, de son point de vue. C'est la raison pour laquelle il n'hésitait pas à dire à certains moments qu'ils étaient des engeances de vipères, c'est-à-dire des gens qui parlaient pour mordre et pour apporter la mort plutôt que pour apporter la vie. Jésus fréquentait tout le monde, indépendamment des castes, du sexe, de la race et des mérites.
Mais dans un contexte comme celui de son procès et de sa mise à mort à la croix, est-ce que vous diriez que dans cette dynamique-là, il met véritablement en pratique cet amour des ennemis ?
Oui, il le met en pratique. Souvenez-vous, mais ça ne s'est pas passé sans spiritualité chez lui non plus. Non pas que son intention était mauvaise, mais il a dû mener un combat. Et la prière a comme fonction de mener le bon combat pour nous orienter de la bonne façon.
Et vous auriez un exemple concret à mentionner ? La prière dans le fameux jardin des Oliviers, comme on dit communément à Gethsémané ?
Exactement. Non pas ce que je veux, c'est-à-dire moi, ma tranquillité, qu'on me lâche les baskets, on dirait aujourd'hui, mais ce que tu veux. Or, qu'est-ce que veut le Père ? Sinon que quelque chose du reflet du Père, l'image de Dieu en nous s'exprime. Mais nous sommes largement vous et moi, et peut-être les auditeurs aussi, tous, conditionnés, programmés pour la riposte. La riposte vis-à-vis de l'ennemi. C'est la raison pour laquelle l'enseignement du sermon sur la montagne n'est pas juste une annonce facile à prendre ou à laisser, c'est une pratique à exercer au quotidien pour que l'intention même de nos cœurs soit disposée et de telle sorte que quand on arrive à des situations plus brutales, nous ne diabolisions pas autrui en le renvoyant aux enfers simplement.
Comment est-ce qu'on parvient aujourd'hui à mettre en pratique cette invitation de Jésus, cette invitation, ce commandement de Jésus à aimer nos ennemis? Comment est-ce que vous-même, vous y parvenez?
Il n'y a pas que nous qui essayons, il n'y a pas que les chrétiens qui essayent. Je me souviens du temps de la fin de l'Union soviétique, ce chant « The Russians love their children too ».
Les Russes aiment aussi leurs enfants.
Oui, vous voyez, il y a là quelque chose qui allait à l'encontre à l'époque de la propagande qui voulait absolument diaboliser autrui pour cautionner les efforts de guerre et de destruction. Je ne dis pas qu'il puisse pas y avoir exceptionnellement des mesures de force de gendarmerie pour forcer quelqu'un qui est un désaxé mental pour qu'il arrête de faire de mal. Mais c'est une autre chose que de le tuer. Et Jésus véritablement propose une culture de la non-violence, une culture du refus de diaboliser quelqu'un, une culture de voir en chacun quelque chose de l'image de Dieu, une culture de la réconciliation prioritaire par rapport à toute autre défense d'intérêt particulier.
Et du point de vue pratique, comment est-ce qu'on parvient à développer de telles choses? Vous parliez d'idéologies qui nous marquaient et qui souhaitaient diaboliser certaines entités qui nous apparaissent comme des ennemis. Comment parvient-on quelque part à ne pas entrer dans ce cycle de la diabolisation?
Comment, quand on nous frappe sur la joue, présenter encore l'autre sans redonner un coup de poing ou bien prendre la poudre des scampettes? Comment? Je dirais l'image de Dieu, la foi en Dieu qui a un projet positif et pas un projet de destruction, un projet de reconstruction. C'est la raison pour laquelle la justice, si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Se laisser imprégner par cette volonté qui est inscrite dans Dieu d'une justice qui restaure, une justice qui n'est que pénale.
Donc quand vous parlez de justice pénale, c'est une justice distributive hein, qui finalement, c'est œil pour œil, dent pour dent. Là, vous mettez en avant un concept, la justice restaurative qui vise quelque part à rétablir l'autre et finalement à permettre la personne, l'offenseur, la personne qui a commis un crime, de prendre conscience de ce qu'elle a fait, de pouvoir peut-être intérieurement changer.
Aimer la réconciliation comme si c'était ce que Dieu voulait pour nous de plus prioritaire. Vous voyez, ce qu'on ne peut pas changer ici, c'est l'image que les auditeurs, que moi-même, que vous-même avez de Dieu. Si on a l'image d'un Dieu père fouettard qui nous attend à tous les tournants, c'est une image qui n'est pas évangélique. Et cette image-là doit être changée par rapport à l'évangile et pas l'inverse. Et le problème, c'est véritablement, oui, de la théologie au sens positif, c'est-à-dire la représentation que j'ai de mon statut, mais également du statut du prochain, de la raison d'être de la vie sur la terre, mais également de ce que le Créateur veut par rapport à ceux qui le reflètent sur la terre. Donc, il y a bien une démarche intérieure à faire. Je ne dis pas qu'il suffit de dire oui à ce programme pour que du jour au lendemain, nos violences intérieures se réorientent d'une manière saine. C'est une histoire d'entraînement. C'est la raison pour laquelle Jésus termine aussi avec cet avertissement qui est assez solennel. Et ça se termine un peu d'une manière brutale à la fin du chapitre 7 de l'Évangile selon Matthieu. Le fou, sur le sable, manque d'entraînement. Et quand viennent les pépins, son projet de vie s'écroule. Aujourd'hui, ou en Occident, les églises deviennent minoritaires Pour moi, ce n'est pas grave qu'elle soit minoritaire. Ce qui est grave, c'est qu'elle ne s'attache pas à ces enseignements les plus fondamentaux et les plus clairs que l'on trouve dans les évangiles, mais aussi dans les épîtres de Paul, lorsque Paul nous dit, par exemple, qu'il faut apprendre à bénir et à ne pas maudire. C'est une manière d'exprimer avec d'autres mots ce que l'amour des ennemis signifie également. Bénir.
Claude Bécher, lorsque vous êtes amené à enseigner et à partager dans des prédications autour du Sermon sur la montagne, et notamment par rapport à l'amour des ennemis, vous aimez citer Dietrich Bonhoeffer, ce fameux pasteur luthérien qui s'est élevé contre Hitler. Qu'est-ce qu'il dit d'intéressant, ce pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer ?
Il a combattu le régime nazi, ça a été dit, et je crois que c'est important. Il va donner sa vie, par pendaison, par ce même régime nazi tout à la fin, en 1945. Il a dit des choses remarquables dans un livre que je vous recommande à vous tous, auditeurs, c'est « Vivre en disciple », ou appelé aussi « Le prix de la grâce ». Voici un extrait de la prière de Notre Père, mais aussi de la prière pour l'ennemi. « Nous avançons, dit Dietrich Bonhoeffer, vers l'ennemi. » Nous nous plaçons à ses côtés. Dans cette prière, nous sommes avec lui, près de lui, pour lui, devant Dieu. Nous nous chargeons maintenant de sa détresse, de sa pauvreté, de sa faute et de sa perdition, et plaidons en sa faveur devant Dieu.
Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a toute une spiritualité de cette prière pour l'ennemi, de cette prière pour ceux qui nous persécutent. C'est quelque chose que vous avez été amené à pratiquer vous-même lorsque vous avez été en conflit avec certaines personnes ?
Oui, j'ai souvenir de deux ou trois situations particulières. J'ai souvenir aussi que lorsque j'étais pas trop catéchisé par l'Évangile, je donnais volontiers un coup de poing en retour. C'est moi, ça. C'est assez naturel, je dirais, chez moi. Et ceux qui n'ont pas la force de le faire font des implosions à la place des explosions, mais ni l'un ni l'autre n'aide à la réconciliation. Le fait de prier me dispose autrement, et petit à petit, on en arrive à considérer, à faire des actes qui peuvent véritablement désarçonner l'homme dans sa méchanceté, la femme dans sa méchanceté. La prière dispose favorablement, et alors seulement on est capable de prier en faveur et pas contre l'ennemi. On est alors seulement capable de faire du bien à ceux qui nous font du mal. Ce n'est pas donné, c'est quelque chose qui véritablement est inauguré par le Christ et expliqué d'une manière, on ne peut plus nette, par la force de la résurrection de ce même Christ qui a pratiqué cela. C'est la volonté de Dieu qui, pour ceux qui se réclament du Christ, de se laisser façonner par cette mentalité.
Donc là, c'est tout un parcours, c'est toute une discipline spirituelle, diriez-vous ?
Oui, c'est une discipline spirituelle. On pourrait utiliser d'autres images. C'est une marche avec le ressuscité. C'est une marche à la suite du Christ. C'est une marche dans l'espérance. Et c'est poser des signes de vie dans un monde qui se pourrit de l'intérieur. Si chacun marche selon son ego contre le prochain, il n'y a plus de nous ensemble, il n'y a plus de vivre ensemble qui n'est possible, ni dans le couple, ni dans le voisinage, ni dans la relation de travail, ni dans la relation entre les races, ni dans la relation avec des personnes qui ne pensent pas et qui ne parlent pas les mêmes langues et qui appartiennent à des nations qui sont, pense-t-on, exploitables.
Jésus et l'amour des ennemis, c'était le sujet de notre entretien avec Claude Bécher, pasteur, docteur en théologie et professeur associé à la Faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, en région parisienne. Si vous souhaitez approfondir le Sermon sur la montagne avec Claude Bécher, ne manquez pas la série de 18 émissions TV Vitamine B qu'il a réalisée pour Dieu TV et le Free College, la formation d'adultes de la Fédération romande d'Églises évangéliques. Ces 18 émissions, et notamment celles concernant l'amour des ennemis, sont accessibles gratuitement sur le site du Free College avec à chaque fois des fiches d'animation. Cette interview se réécoute sur le site de Radio R, dans la rubrique podcast. Vous pouvez aussi la retrouver sur toutes les plateformes de podcast, SoundCloud, Spotify et bien d'autres. Par ailleurs, ne manquez pas de retrouver nos émissions Un air d'actu sur le site de Radio Air, www.radio-air.ch. Merci à Erol pour la réalisation de cette émission. Excellente suite de journée à chacune et à chacun.
Un air d'actu avec Serge Carrel.